Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de Félix, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 en compagnie de Nicolas,
Janie
et Farouko.
Et cette semaine, de quoi qu'on va parler cette semaine? Ben, on va avoir une revue de presse parce qu'il y a plein de journaux alternatifs qui sont sortis cette semaine, justement. Et on va revenir sur une entrevue avec Noam Chomsky sur la situation en Égypte.
Puis je vais surtout parler d'une enquête du FBI qui a eu lieu sur la scientologie à cause sur des allégations de trafic humain.
Et surtout, on va avoir de la musique.
Ah oui? Et on commence avec un vieux band new-yorkais. C'est juste pour toi, Phoebus.
Merci. Cette douce musique à mes oreilles.
Ah, ça venait du Lower East Side de New York. C'est un band qui s'appelle Warzone, ben, qui s'appelait, puisque le chanteur est mort de AIDS, et que c'était The Sound of Revolution, en
c'est
plus.
Trop hipster pour moi, là. Si on traduit AIDS, ça veut dire sida.
Ouais.
C'est bon. Hey, vous écoutez toujours Voix de Fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Et cette semaine, notre collaborateur en région éloignée, Thomas à Montréal, n'a pas été en mesure de nous préparer la blague anarchiste de la semaine. Elle fait relâche parce que il a hâte à sa semaine de relâche, j'imagine. Mais bon, enfin, bref, il n'y avait pas le temps. Mais, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, a été lancée une vidéo virale pour mobiliser pour la manifestation du 12 mars. On vous en a parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines peut-être. Grande manifestation organisée par l'Alliance sociale et la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Et ma foi, cette vidéo pourrait faire office de blague anarchiste de la semaine, tellement c'est que dire, je ne suis pas le public cible de cette vidéo, de toute évidence. Toi non plus, Farouko, toi non plus, Janie. Alors, Donc, et probablement que les auditeurs non plus. Je vais vous laisser en juger. Écoutez, c'est pas grave, hein? On peut pas présenter de vidéo à la radio. On peut juste présenter du son. Mais bon, il y a tellement pas d'image dans cette vidéo que c'est pas grave. Ça peut être juste du son. Alors, imaginez-vous mentalement, et vous pourrez aller voir sur notre blog, on va la mettre ce soir. Écoutez, c'est des faces en gros plan, en couleur, avec en arrière-plan, en noir et blanc, du monde. Donc,
wow.
Et des ça, fois, des fois, des animations vertes.
C'est de la belle utilisation de vidéo, ça.
Oui, oui, non, c'est super bon. Puis, les gens ne sont pas nommés. Alors, si vous ne reconnaissez pas les personnes, c'est parce que vous ne savez pas c'est qui. Puis, probablement que vous ne le saurez pas plus en regardant la vidéo. En fait, ce sont une série de porte-paroles de mouvements sociaux. Et remarquez bien comme il faut, si vous écoutez la radio souvent, la télévision, vous allez reconnaître les voix. Remarquez bien comme il faut l'ordre d'apparition et le temps qui est accordé à chaque personne. Ça en dit long sur l'argent qu'ils mettent dans l'Alliance sociale et la coalition, parce que bon, enfin bref, écoute, je te jure, Rock et Belzari aurait voulu faire une parodie, il aurait pas fait bien différent, mais la rumeur veut que d'autres vidéos virales soient en préparation et que peut-être certaines de ces vidéos s'adresseront à nous comme public cible. Pour l'instant,
ça va le être message le... vu qu'on met pas une scène là-dedans,
le message politique est relativement correct, on s'entend là, c'est pas grave ce qu'ils disent là, c'est bon, c'est réformiste, mais tu sais, ça va, c'est juste la façon de le dire. C'est la façon de le dire. Puis la façon de le dire explique beaucoup, peut-être, pourquoi est-ce que c'est pas nous qui sommes dominants au niveau du discours dans la société actuelle. Alors, parle-nous ça, la blague anarchiste de la semaine involontaire sur les ondes de Sequoia 83 Québec.
Le gouvernement nous dit qu'on n'a pas le choix, que le Québec est dans le rouge, que la population vieillit, qu'il faut couper dans les services, faut recourir de plus en plus au privé, faut réduire les dépenses sociales, tarifer tout azimut.
Pourtant, des alternatives progressistes et réalistes, ça existe. Des solutions qui incarnent les valeurs de solidarité, de partage de la richesse des Québécoises et des Québécois. Un budget équitable, c'est une question de choix.
Parce que la politique du déficit zéro à très court terme se fait sur le dos des femmes, des pauvres et de la classe moyenne, nous devons en reporter l'échéancier. C'est une question de choix.
Parce que la tarification fait augmenter les inégalités sociales.
Parce que l'impôt sur le revenu, c'est beaucoup plus équitable.
Les riches doivent payer plus. Les entreprises doivent contribuer leur juste part.
C'est une question de choix.
Parce que nous avons besoin d'emplois de qualité.
Le gouvernement doit mettre en place une véritable stratégie économique axée sur le développement durable et sur les énergies renouvelables.
C'est une question de choix!
Parce que hausser les frais de scolarité, c'est mettre en péril l'accès aux études universitaires.
Il faut s'opposer à toute nouvelle hausse et faire de l'éducation une priorité nationale.
C'est une question de choix!
Parce que la taxe santé de 200 $ par personne par année, peu importe le revenu, est une mesure profondément inéquitable.
Il faut l'abolir! C'est une question de choix.
Parce que la construction en PPP coûte plus cher.
Parce que le recours au privé dans nos hôpitaux coûte plus cher.
Il faut arrêter de privatiser.
C'est une question de choix.
Parce que nos services publics et nos programmes sociaux représentent un bien commun précieux et améliorent notre qualité de vie.
Nous devons les préserver.
C'est une question de choix.
Parce que seulement dans la fonction publique, les dépenses en sous-traitance sont augmentées de quelques 2 milliards de dollars entre 2003 et 2009.
Il faut cesser d'y avoir recours. C'est une question de choix.
Parce que le budget du Québec touche tout le monde.
Les femmes.
Les personnes pauvres.
Les mal logés.
Les sans-emploi.
Les personnes malades.
Les étudiants et les étudiantes.
Les travailleuses et les travailleurs.
Les retraités.
Les familles monoparentales.
La classe moyenne.
Le 12 mars, manifestons ensemble.
C'est une question de choix.
Un brin de haine.
quartier qui se délabre. Sa femme a accouché d'un fils qu'il a nommé Stéphane, afin qu'il puisse mieux s'intégrer dans la société. Mais Stéphane, qui a grandi ici dans le vice, est une autre statistique de délinquance juvénile. Son meilleur ami Hicham, ce jeune qui vient de Nice, autant que je sache, est ma foi un gosse bien tranquille. Stéphane est dans tous les coups pourris et par-dessus tout déteste les types qui passent à table. Son père, qui va le chercher au poste la nuit, fait retomber la faute sur celui qu'il appelle l'arabe. Les gens vivent si proches et les cultures s'ignorent comme deux jumeaux qui sont assis dos à dos. Un peu de piment dans une vie banale et l'ennui conduit aujourd'hui à ce que des gosses jouent du couteau. La tension pour les faibles, la technique de la pression, de l'effroi pour des rois du bloc 3. Et tous deux se souviennent comme hier des premiers coups de cran d'arrêt au cinéma à la sortie de Rocky 3. Tant de personnes les haïssent, ces stéréotypes de la terreur qui vient du nord de la ville. Ils rejettent l'idéal de leurs parents et disent refuser de devenir des pigeons savants. Un brin de haine et pas mal d'ennui conduisent à des actes qui gâchent toute une vie. Ces personnes qui sont rongées de regrets, carrément écrits d'avoir vécu trop longtemps dans le secret. Un brin de haine. Quasiment désormais enfermé comme Pygmalion dans la peur des Arabes, sans cesse sur ses gardes, il mène une existence régie par la loi du talion. Il ne s'endort jamais en l'absence de la Bible et du 22 long rifle à côté du lit. Lui qui dormait la porte ouverte dans la maison de famille, dans ma campagne qui entourait leur cri. Et voici le résultat de l'entassement des gens pas vraiment méchants, mais qui ignorent tout du voisin. Août 95, aucun effort est fait dans ce camp, et cet été nous vivons un climat vraiment malsain. Stéphane, je t'interdis de voir tous ces minables. Stéphane ne fréquente donc plus ce sale arabe, en croyant qu'Hicham l'entraîne vers le vice. Il ignore que le diable dans l'histoire est son fils. Et quand celui-ci claque la porte, il souffle comme d'habitude, très loin d'avoir des soupçons. Stéphane passe prendre son pote et il trace vers la gare, attraper un train pour Toulon. Un brin de haine et pas mal d'ennui conduisent à des actes qui gâchent toute une vie. Ces personnes qui sont rongées de regrets, carrément écrit d'avoir vécu trop longtemps dans nos secrets. Un brin de haine. Un brin de haine. L'idée de ce qu'il est moi, ce qui devient faut qu'il reste vrai. Juste un brin de haine. Un brin de haine. L'idée de ce qu'il est moi, ce qui devient faut qu'il reste vrai. À Toulon, les filles sont si jolies, mais aujourd'hui, pas question de penser au lit. Ils prennent deux billets, puis pénètrent dans un cinéma. S'asseyent derrière un couple qu'ils ont filé. La femme a toujours le sac au bras, dès qu'elle le vire, Stéphane plonge et taxe les clés de la tire. Ils ont payé le train et emprunté une Audi, qu'ils viendront regarder lorsque le coup sera bien fini. Aucune trace, aucun indice, pas de voiture volée. Ce soir Stéphane est fier, quand ils arrivent à la Valette, ils se glissent le long d'un mur. Tout va bien ce soir, c'est désert, le rideau de fer du PMU7. Ils crochettent la serrure, aucune emmerde. Quand ils distinguent la caisse, ils sourient, ils se ruent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le patron vit au-dessus. Merde, le gadjo a une arme, il la charge. La balle rafle l'épaule d'Hicham. Ils partent comme des fous et laissent tomber le fric. Stéphane retourne son blouson pour tromper les flics. Ils sautent dans l'Audi, démarrent et fusent vers Marseille à fond, sans demander le reste. Quand ils arrivent au quartier, Stéphane se marre, mais il a paumé les clés sûrement en tournant sa veste. Alors il escalade jusqu'au premier et pousse la fenêtre du salon pour entrer. Son père se tient debout dans le noir, il est chaud, vise la tête et lui dit tiens meurs sale bico l'idiot. Il croyait que des voyous l'attaquaient et s'est donné lui-même le plaisir de riposter. Voilà ce qui arrive quand on méprise les hommes et qu'on se fout éperdument de l'éducation de son môme. Un brin de haine et pas mal d'ennui conduisent à des actes qui gâchent toute une vie. Ces personnes qui sont rongées de regrets, carrément écrites à avoir vécu trop longtemps dans le secret. Un brin de haine. Un brin de haine. L'idée plus qu'il est moi, ce qui devient faut qu'il reste vrai. Juste un brin de haine. Un brin de haine. L'idée plus qu'il est moi, ce qui devient faut qu'il reste vrai. Beaucoup de haine.
Ouais, on vient d'entendre Akhenaton avec un brin de haine sur son très vieil album Metek et Matt.
Et de la haine, il y en a, mon Dieu, il y en a. Il y en a beaucoup.
Oui.
Un peu partout. Et un des vecteurs de haine, c'est l'islam radical.
Ben oui.
L'islam radical.
C'est reconnu.
On a toujours peur de ça. Parce qu'on comprend pas. Mais bon, en même temps, c'est effectivement inquiétant. Sauf que il y a l'indispensable Noam Chomsky, critique éternel de la politique étrangère américaine, qui nous dit que en fait, c'est pas l'islam radical qui préoccupe les États-Unis, c'est l'indépendance.
Oui, ça, ça fait peur, hein? Qui?
C'est ça. Et en fait, on apprend, c'est un texte qui a été publié sur The Guardian, qui a été traduit par Le Grand Soir, et qu'on a mis sur notre blog, d'ailleurs, si vous voulez lire au complet. On apprend qu'en fait, la nature des régimes qu'ils soutiennent dans le monde arabe importe moins que leur contrôle, et les sujets sont ignorés, en fait, jusqu'à ce qu'ils brisent leur chaîne, parce qu'on est obligé de tenir compte que finalement, il y a du monde qui vivent dans ces places-là.
Ouais, c'est pas juste une colonne avec des chiffres à côté, en dessous, là.
Non, c'est ça. 45 milliards qui vaut Moubarak.
Ouais, c'est pas pire, ça.
Quand même. Parce qu'il faut savoir, ça par rapport avec Chomsky, là. Ben oui, ça a rapport avec Chomsky, en fait. Il faut savoir que dans ces dictatures-là, comment on fonctionne en général, c'est que, oui, on accepte les lois du marché, les capitaux étrangers, mais on force les multinationales à créer des joint ventures avec les amis du régime. Les amis du régime, dans ce cas-ci, la famille du dictateur égyptien, qui ne contribue rien aux joint ventures, mais ils vont chercher jusqu'à 50% des profits. Et donc, c'est comme ça qu'on se construit des fortunes qui sont acquises par écouter l'investissement dans le monde des affaires. Donc, on ne pourra pas venir les rechercher après, puisque c'est pas de la corruption, c'est pas du détournement. C'est simplement une politique économique un peu particulière. Au lieu d'être l'État qui est dans le joint venture, c'est les dirigeants de l'État.
Bon. Ou la famille.
Ou la famille. Et donc, ben, c'est ça. Al Jazeera, la semaine dernière, au début du mois, en fait, annonçait « Le monde arabe est en feu ». Parce que partout dans la région, les alliés occidentaux perdent rapidement leur influence et l'onde de choc a été déclenchée par le soulèvement en Tunisie qui a renversé le dictateur soutenu par l'Occident, on en a déjà parlé, avec des réverbations surtout en Égypte où les manifestants ont submergé la police brutale du dictateur. Il faut savoir que hier, c'était la plus grande journée de manifestation depuis le début du mouvement en Égypte. Donc, il semble que ça se poursuit. Et par rapport à la Tunisie aussi, je voulais soulever quelque chose d'intéressant qui est arrivé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a une motion qui est adoptée à l'unanimité pour que l'Assemblée nationale du Québec demande à Ottawa de geler les avoirs de M. Trabelsi, le beau-frère de Ben Ali, qui est réfugié au Canada,
ben oui.
De l'arrêter et de le donner en fait à la Tunisie. Et cette motion-là, évidemment, n'a pas été proposée par un député du Parti libéral ou du Parti québécois. Il a fallu qu'Amir Kadir
pas ben ben choix.
La propose.
C'est
islamiste. Mais ça a été adopté à l'unanimité. Oui, c'est islamiste radical.
C'était ça, son agenda caché. Il a tendu un piège au beau-frère de l'autre. Puis il l'a attrapé.
Faisons payer les riches.
Ah, ça y est, le côté communiste qui ressort.
Donc, c'est ça. Chomsky revient, parce que là, je m'étais sorti un peu de mon texte. En fait, Chomsky revient en disant que plusieurs observateurs ont comparé les événements au régime, au renversement, en fait, du régime du clan soviétique en 89. Sauf que, d'après lui, les différences sont importantes. La plus importante, c'est qu'il n'y a pas de Mikhail Gorbatchev dans les grandes puissances qui soutiennent les dictateurs arabes. Washington et ses alliés s'en tiennent...
Il y a juste un Barack Obama.
Eh oui, ils s'en tiennent au principe bien établi que la démocratie, c'est acceptable à condition qu'elle soit conforme aux objectifs stratégiques et économiques. La démocratie, donc, est excellente en territoire ennemi jusqu'à un certain point, mais à éviter dans nos chefs gardés, sauf si elle est correctement contrôlée.
Oui, mais c'est ça, la démocratie est un... comment dire, un
argument rhétorique.
Un argument pour attaquer, mais dans les pays amis, il ne faut pas faire de l'ingérence.
Faut pas faire de l'ingérence. Et puis, écoute, s'il y avait la démocratie, peut-être que l'islamiste prendrait le dessus. Qui sait? D'ailleurs, c'est ce que la droite américaine capote en ce moment sur ce qui se passe dans le monde arabe. Ils sont sûrs qu'il y a un complot international pour étrangler Israël. Mais bon, la comparaison avec 89 est peut-être valable dans un cas, la Roumanie, où Washington soutenait Nicolae Ceaușescu, qui était le plus brutal des dictateurs d'Europe de l'Est, jusqu'à ce que ce dernier devienne incontrôlable. Et après ça, ben, Washington a salué tout simplement son renversement en oubliant le passé. C'est un scénario qui est classique, hein? Bon, les gens qui ont un petit peu de mémoire vont peut-être se rappeler de Ferdinand Marcos, de Jean-Claude Duvalier, de Chun Doo-han, de Suharto et de nombreux autres gangsters utiles. Ça pourrait être aussi le cas d'Hosni Moubarak, qui, tout en déployant des efforts habituels pour s'assurer que le régime qui va lui succéder s'éloigne pas trop du chemin tracé. Donc, les espoirs semblent s'orienter en ce moment vers le général Omar Suleiman, qui est un fidèle de Moubarak et qui vient d'être nommé vice-président. Suleiman, qui a longtemps dirigé les services de renseignement, est détesté par le peuple en révolte presque autant que le dictateur lui-même, évidemment. Mais c'est un autre. Un refrain qui est souvent entendu, c'est que le risque qui est posé par l'islamisme radical oblige à s'opposer, à contre-cœur évidemment, à la démocratie, et ce pour des raisons pragmatiques. Et bon, peut-être que la formule mérite considération, mais selon Noam Chomsky, c'est une formule qui est trompeuse parce que la vraie menace, c'est l'indépendance. Les États-Unis et leurs alliés ont régulièrement soutenu des islamistes radicaux, parfois pour éliminer la menace d'un nationalisme laïque. On peut penser à la Palestine, par exemple.
Ben, même avant que Ben Laden il pète une bulle, ils étaient grands amis.
Effectivement. Et justement, il y a un exemple qui est connu, c'est celui de l'Arabie Saoudite.
Oh.
Ça, c'est le centre idéologique de l'islam radical et du terrorisme islamiste. Un autre sur la longue liste, c'est Ziaul Haq, le plus brutal des dictateurs pakistanais et le préféré du président Reagan, qui a mené un programme d'islamisme radical et qui était financé par les Saoudiens. Alors, Chomsky cite un ancien officiel de Jordanie, Marwan Moacher, j'ai la misère avec les noms, je suis désolé, et qui disait que l'argument habituel qui est constamment avancé dans le monde arabe et à l'extérieur est que tout va bien, que tout est sous contrôle. Lui, il est actuellement directeur du centre d'études Middle East Research for Carnegie Endowment. Il dit en suivant ce raisonnement-là, les forces retranchées rétorquent que les opposants et ceux à l'étranger qui exigent des réformes exagèrent la situation à l'intérieur. Et évidemment, on peut ignorer l'opinion publique. Hein? La doctrine ne date pas d'hier, elle a été généralisée au monde entier, y compris à l'intérieur des États-Unis. Puis lorsque des troubles se produisent, on n'a qu'à faire quelques petits ajustements tactiques, justement qui peuvent se révéler nécessaires, mais toujours avec l'idée de garder le contrôle. Et le mouvement démocratique en Tunisie était dirigé contre un État policier avec peu de liberté d'expression, d'association et de graves atteintes aux droits de l'homme, dirigé par un dictateur dont la famille était détestée pour sa vénalité. Et puis ça, c'est pas Chomsky qui le dit. En fait, c'est Robert Godek, ambassadeur des États-Unis, dans un câble daté de juillet 2009 et diffusé par WikiLeaks.
Ah, les méchants communistes encore.
Selon certains observateurs, les documents de WikiLeaks devraient rassurer l'opinion publique américaine que les dirigeants sont effectivement conscients et qu'ils agissent. Et même que les câbles confirment tellement la politique des États-Unis que c'est à se demander si c'est pas Obama lui-même qui a organisé les fuites. Et donc l'Amérique devrait donner une médaille à Assange, qu'on pouvait lire dans un titre du Financial Times, dans un article où on écrivait notamment que la politique étrangère des États-Unis apparaît comme éthique, intelligente et pragmatique. La position publique des États-Unis sur un sujet donné correspond en général aux positions en privé. De ce point de vue-là, selon Chomsky, WikiLeaks coupe l'herbe sous le pied des théoriciens du complot qui émettent des doutes sur la noblesse des motivations proclamées par Washington. Et le câble de Godek, l'ambassadeur, confirme cette idée, à condition évidemment de ne pas creuser un peu plus loin. Si on ne creuse pas. Et dans ce cas-là, il y a un analyste de la politique internationale, Stephen Zoon, qui a indiqué dans Foreign Policy in Focus qu'on découvre aussi, à côté du câble de Godek, que Washington a fourni 12 millions de dollars d'aide militaire à la Tunisie. On découvre que la Tunisie est l'un des 5 bénéficiaires. Israël, de manière constante, deux dictatures du Moyen-Orient, l'Égypte et la Jordanie, et la Colombie, qui détient le record en matière d'atteinte aux droits de l'homme et qui est aussi le premier bénéficiaire de l'aide américaine sur le continent sud-américain. Donc c'est ça. On est conscient de ce que c'est et de ce que ça représente, mais on leur donne quand même 12 millions de dollars d'aide militaire. L'autre pièce à conviction qui est présentée par Elbrun, c'est le soutien arabe à la politique des États-Unis contre l'Iran, qui est révélé par les câbles. Rachman, lui aussi, se saisit de cet exemple-là, comme la plupart des médias, pour louer ces révélations encourageantes. Toutes ces réactions-là montrent à quel point la démocratie est méprisée dans les milieux éduqués. Évidemment dans les milieux journalistiques. Il n'y a aucune mention qui est faite en fait de ce que pense la population, une chose qui est facile à vérifier. Les régimes soutiennent la politique américaine contre l'Iran, peut-être, sauf que selon un sondage du Brookings Institution qui a été rendu public au mois d'août, il y a effectivement quelques Arabes qui sont d'accord avec Washington et les commentateurs occidentaux pour qui l'Iran représente une menace. Ils sont 10%. En contraste, les Arabes qui considèrent que ce sont les États-Unis et Israël qui représentent la plus grande menace sont respectivement 77 et 88%. L'opinion publique arabe est tellement hostile à la politique américaine qu'une majorité, 57%, pense que la sécurité régionale serait renforcée si l'Iran se dotait d'armes nucléaires.
Ben, c'est comme... C'est con, mais ça serait le même message que pourquoi la Corée du Nord est tranquille actuellement.
Mais
ben, tranquille.
Néanmoins, tout va bien, tout est sous contrôle, selon l'expression de Moisher pour décrire l'illusion dominante. Les dictateurs soutiennent les Américains, leurs sujets, on peut les ignorer, sauf quand ils brisent leur chaîne. Et là, dans ce cas-là, il faut procéder à un ajustement de politique. Il y a d'autres documents qui semblent confirmer l'enthousiasme qui s'exprime autour de la noblesse supposée de Washington. En juillet 2009, Hugo Lawrence, l'ambassadeur américain au Honduras, a informé Washington d'une enquête de l'ambassade sur les enjeux juridiques et constitutionnels autour du renversement le 28 juin du président Manuel Mel Zelaya. L'ambassade a conclu de son enquête, donc il ne fait aucun doute que l'armée, la Cour suprême et le Congrès ont conspiré le 28 juin dans ce qui constitue un coup d'État illégal et anticonstitutionnel contre la branche exécutive du pouvoir. Très admirable, sauf que le président Obama a rompu avec pratiquement toute l'Amérique latine et l'Europe en soutenant le régime qui était issu du coup d'État et en ignorant les atrocités qui ont suivi. La révélation, selon Chomsky, la plus remarquable de Wikileaks, c'est peut-être celle qui concerne le Pakistan et qui a été examinée par l'analyste Fred Bramfman dans Truth Dig. Les câbles révèlent que l'ambassade américaine était parfaitement consciente que la guerre américaine en Afghanistan et au Pakistan non seulement renforce l'anti-américanisme ambiant, mais aussi le risque d'une déstabilisation de l'État pakistanais et celui du cauchemar absolu que les armes nucléaires tombent entre les mains de terroristes islamistes. Encore une fois, ces révélations, selon les commentateurs patentés, devraient rassurer l'opinion publique américaine que les dirigeants sont effectivement conscients et qu'ils agissent. Pendant ce temps-là, Washington avance à pas décidé vers un désastre. Donc, c'est ce que nous révèle la chose. Si vous voulez en savoir plus, Chomsky est sorti de son silence relatif sur la question. Il a donné plusieurs entrevues suite à ça. Ça, c'est le texte qu'il a écrit pour le Guardian, je le répète, qui a été traduit par le Grand Soir, journal belge, je crois. Je me souviens plus comment c'est sous-titré. Ils disent pas. En tout cas, c'est www.legrandsoir.info. C'est un journal alternatif belge. Mais si vous cherchez Noam Chomsky, arabe, entrevue, entre autres sur le site de Democracy Now, il y a une grosse entrevue. Il y a aussi un site algérien qui a une très longue entrevue parce que vous pouvez l'écouter en anglais et puis lire la traduction en français avec Chomsky, parce que justement, il parle de la situation là-bas. Si on revient ici brièvement, tant qu'à parler de Chomsky il parle de la politique américaine, mais il y a aussi de plus en plus de sources locales qui ressortent, et nous, on a... Il y a nos copains de la NEFAC aux États-Unis, la Fédération des anarcho-communistes du Nord-Est, qui ont fait une entrevue avec un anarcho-communiste égyptien qui est à la place Tahrir, puis qu'on a publié sur notre blog et qu'on peut trouver maintenant sur causecommune.net. Donc c'est quand même pas pire, c'est une entrevue avec un anar égyptien sur place. Et donc c'est ça pour ça. Sinon, il se passe pas grand-chose au Québec. Je voulais juste ramener deux petites choses avant de passer en musique. La première, c'est qu'il y a eu une manifestation contre les gaz de schiste mardi. Et vous en avez peut-être pas entendu parler. Il y a quand même une pétition de 120 000 signatures qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Il y avait quelques dizaines de manifestants.
Pas 128 000?
Ah, moi, j'ai 120 000, c'est peut-être 128.
Je suis trompé.
Puis, c'est quelques dizaines de manifestants qui sont allés, mais ils ont dû laisser la place au procureur de la Couronne qui manifestait, qui voulait des augmentations de salaire. Et pour terminer, on a déterré une chanson française qu'on aimerait pouvoir dédier à notre ami Mathieu Boccoté. Mathieu Boccoté, qui parlait d'Amir Kadir comme étant l'ultra-gauche. Alors cette chanson-là a été réalisée dans un contexte particulier en France où il y a un petit groupe qui a été arrêté par les services français vu des sabotages sur les trains.
Oui, ils ont été décrétés comme étant des anarcho-autonomes.
Oui, des anarcho-autonomes, ultra-gauche et tout. Puis il y a la Parisienne libérée qui fait des petites chansons rigolotes qui a décidé de faire une chanson qui s'appelle je me souviens plus comment ça s'appelle.
L'ultime
hyper total gauche.
Oui.
Et donc, on va vous faire entendre de l'ultime hyper total gauche, puis on va revenir avec les nouvelles internationales de Janie qui concernent le FBI.
Oui, l'enquête sur la scientologie.
Donc, l'enquête du FBI sur la scientologie. Toujours à voix de fait. Alors, Monsieur Côté, Monsieur Boccoté, celle-ci est pour vous.
là sur le sofa qui déclare la guerre au caténaire. Allô les studios, je suis dans le bureau où est interrogé le terroriste de l'UHT. Ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche de la gauche, de toutes les gauches. Ça fait des mois qu'on te suit, toi et ton groupuscule, on sait tout sur ta vie et celle de ta cellule. Tu t'intéresses au train, tu flânes près des chemins de fer, si j'en crois les témoins, t'as même pris les horaires. Dans ta bibliothèque, paraît qu'il y a des bouquins, et d'après notre enquête, t'en as même lu certains. UHT, ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Fini les projections et les choucroutes parties, l'État dans son action sera direct aussi. Détournement de brouette, là tu risques 20 ans, à moins que ça soit perpète, si t'avoues pas maintenant. Le procureur constate qu'il y a dans ton garage des tuteurs à tomates, c'est pour les sabotages. UHT, ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Le jugement est tombé, fini le jardinage, pour toi ça va chauffer, sous les navets, la plage. Une bombe atomique, demain sera lâchée, contre le membre unique de ta communauté. T'étais le premier leader d'un mouvement anarchiste, le seul spéculateur anticapitaliste. UHT, ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Et si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air, c'est que le vent a soufflé. Oui, si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air et que le vent a soufflé. Qui en veut à la seule ce feu?
Spéciale dédicace à Mathieu Bock-Côté. Voilà, c'était Ultime Hyper Total Gauche, la Parisienne Libérée, que vous pouvez voir sur notre blog. C'est actuellement en manchette. Ça ne le sera plus dans quelques heures parce que ça va être remplacé par l'émission d'aujourd'hui. Donc, notre blog, c'est Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com. Et c'est ça. Puis là, on va continuer avec Jenny qui va nous parler du FBI.
Ça, c'est une enquête. Et c'est un article du New Yorker. C'est un journal américain qui a fait état, qui avait un long article qui parlait de la défection du réalisateur canadien et scénariste Paul Haggis. C'est lui qui avait réalisé Million Dollar, qui avait écrit le scénario de Million Dollar Baby et Crash aussi, qui avait gagné le score du meilleur film avant de lire il y a quelques années, qui contenait plusieurs versions intéressantes au sujet de l'Église de Scientologie, puis la vie dans le fond du chef David Miscavige. Puis on a fait aussi l'existence d'une enquête du FBI sur des allégations de violence par rapport à David Miscavige, puis aussi de trafic humain, parce qu'il y aurait des soupçons d'esclavage parmi certains membres de la Sea Org qui dans le fond, qui est comme l'élite de la Scientologie, dans le fond. Le monde, là, ils se font dire, oh, tu vas être nourri, logé, puis tu vas avoir, mettons, 90 pièces par semaine. Puis dans le fond, eux autres, le monde qui entre dans la Sea Org, ils signent un contrat d'un milliard d'années.
Un milliard d'années. Ça, c'est un contrat à durée déterminée, en plus, c'est pas pire.
Oui, un milliard d'années. Comme si on entre, continue à travailler après, en tout cas. C'est ça, puis là, il y a aussi des membres des gens qui étaient encore de la CIA qui ont déclaré qu'ils ont eu des femmes qui ont été obligées d'avoir des avortements, genre tu te fais avorter ou bye bye, là, dans le fond. Puis pourquoi, dans le fond, que là, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'article en anglais, puis il faut que je lise en anglais puis que je lise en français en même temps. C'est un peu compliqué. C'est dans le fond, sur le sujet de cet article-là, les agents de FBI qui travaillent sur le trafic humain, ils ont interrogé des membres de la Scientologie par rapport à ça, des accusés. Des abus. About abuse in the church since at least in December 2009. C'est ça. Puis là, ils disent pourquoi ils parlent de trafic humain, dans le fond, parce que le code pénal de la Californie, le trafic humain, ben, on parle de la prostitution forcée, puis aussi, mais aussi de l'esclavage, dans le fond. Puis là, c'est. Il y a des conditions, genre, qu'on parle de signes de traumatisme ou de fatigue, d'être tellement effrayé, de ne pas être capable de parler, d'être censuré par d'autres personnes, ou. C'est de travailler à un endroit sans l'avoir, sans la liberté de t'en aller, dans le fond. Puis aussi de contrôler la paye d'une personne et aussi de pas avoir le contrôle sur les passeports, là.
Mm-hmm.
Ça, puis là, ces conditions-là, ça se retrouve dans les témoignages de nombreux membres de la CIA, justement. Donc, va falloir checker ça de plus près. Là, dans le fond, j'espère que ça va... Ça va mener à quelque chose, parce que ça fait plusieurs fois que la justice, c'est de coincer justement la Scientologie, puis bien souvent, ça marche pas.
On verra. C'est toujours dangereux d'essayer de coincer une église, à moins là, qu'il y ait des preuves irréfutables, mais là, on espère.
Ouais.
Sérieusement, c'est une des pires.
C'est vraiment une secte au sens propre. Là.
Oui, puis leur objectif avoué, là, c'est la domination du monde. C'est comme, nous, on est là pour vous dominer. C'est beau comme religion.
Dans le fond, eux autres, ils ont juste le statut de religion pour avoir des exemptions fiscales, mais Ranoubar l'a bien dit que c'est pas une religion, mais bon, bref.
Mais il y a certains États où c'est considéré comme organisation criminelle ou carrément un truc de vente pyramidale.
Ouais,
c'est souvent considéré comme une secte aussi. Je pense qu'en Union européenne, c'est considéré comme une secte.
Ou il y a des places que c'est considéré comme une organisation commerciale aussi. Ça dépend selon la ville, le pays.
Mais je me rappelle plus, mais ça coûte une méchante beurrée pour découvrir Xenu.
Ouais, ça coûte. Ben à Star, mettons, tu peux avoir ça gratuitement sur Internet.
Ouais, et puis ça, ça les fait.
Parce qu'il y a du monde qui ont flushé, mais je pense que pour découvrir ce secret-là, faut que tu te rendes au niveau OT3. Puis parce qu'il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pense. Puis, faut que tu te rendes à 3, puis là, t'es rendu là, je pense qu'il faut t'en payer quelque chose comme 200 000 piastres.
Ce qui est bien aussi, c'est que quand t'arrives à la fin, l'objectif final, je me rappelle plus c'est quoi,
ben, t'es supposé être capable de déplacer des objets par ta pensée. Si t'es pas capable, faut que tu recommences du début.
Faut que tu recommences du début parce que t'es pas pur.
Ouais, après, tu deviens pur esprit, t'as plus rien.
Et voilà.
Tu n'as que la peau sur les os, puis tu déplaces beaucoup d'objets avec ton esprit.
Ou t'es une vedette hollywoodienne qui...
Ouais, ou ben, pas juste une vedette d'Hollywood, il y a France d'Amour qui est là-dedans. Hein.
Ouais, mais je pense qu'elle rapporte moins d'argent que Tom Cruise, puis...
Elle a quand même donné 40 000 piastres à l'organisation de la Scientologie Montréal.
On s'entend que John Travolta, il doit en donner pas mal plus.
Ouais, mais tu sais, il y a quand même une partie des chèques crédits d'impôt qui sont donnés pour ces CD qui vont dans les poils de Scientologie.
Bon.
C'est génial.
C'est
alors,
tout.
On va y aller en zizik. Salut.
Cette année, CKIA célébrait ses 25 ans. Dans mon temps, c'était pas pareil comme aujourd'hui. En 1982, on était diffusé sur la même antenne que CKRL. Mais quand on s'est mis à diffuser sur notre propre antenne en 1984, c'était en mono et juste l'après-midi. Et seulement les jours de semaine à part ça. Elle dit qu'après 25 ans, la station risque de fermer. Puis tout ce qu'ils nous demandent, c'est d'acheter une carte de membre. Faut faire vite. On peut acheter sur ckiafm.org, en passant au 600 Côte d'Abraham sur les heures de bureau, ou en appelant au 529-9026.
Spot Bill Rocker, Lil Popper, Kilt Hopper, bid a little longer, feel strong and I'll stop ya, drill sergeant, steel ferrule, wheelbarrows up the steel rocker, get me real bonkers like Will Ferrell, on cat tranquilizer, rap guys get banked and think they messiahs, but they liars, vote for who now, you red, white, and blue, I'm American too, but I ain't with the president's crew, what you peddling and who you peddling to, you ain't got the ghetto with you, trying to lead blind sheep to the slaughterhouse, talk about rap the vote, you ain't thought about, the black vote mean naked.
Who you gonna elect, Satan or Satan? In the hood, nothing is changing. We ain't got no choices. Who to choose? 10 years ago, they were trying to stop our voices. And in hip-hop, they some hypocrites. Condoleezza Rice, I don't really get this chick. Tell her if she really ever cared about poor schools, about poor children. Does she gotta prove that she ain't just another coon Uncle Tom fool? Like these MCs, gotta give them the rules. Fly to the youth, Uncle Tom, you confused. Might as well give the hip-hop community a noose. Need a truce with the gangs, it's a food for the hungry. On Kerry Nuts, he look at you like a monkey. You MCs on that old slavery path. The Bushes will look at your ass and laugh. See, it's all about community, let's help ourselves. Cops brutalize us, get dealt with shells. It's our turn, it's about time we win. Need somebody from the hood as my councilman,
Yeah, I think about this every day. That's the American way. Yeah, I think about this every day. That's the American way.
That's the American way.
Yeah, I think about this every day. That's the American way. Shit. Yeah, I think about this every day. That's the American way.
Up in the steam room, chilling, exfoliating the skin. It's rarely men, conversating on ends. Probably businessmen, I sense good taste. And they watch us, this spot's an expensive place. Manhattan, New York, I'm trying to keep steaming. It's good for the lungs, had plans for the evening. This man leans in, this boy's laughing. Now I'm the spokesperson for black men, this always happens. Says all black women care about us who got dough. And all we do is call them either bitch or a black hoe. I say first brother, you ain't got to be that cold. Since you ignorant, I'ma show you how the facts go. The biggest examples of scandal of history were Monica Lewinsky or Donald Trump's pimping spree. Most women who love Givenchy or Gucci are pretentious non-black groupies or floozies. But who are we to blame? Not the dames. It's a man-made game and all lessons are women the same. Beautiful creatures, black girls birthed the earth, so they deserve the Hermes purse. Matter of fact, I'm about to go shopping with my dime. Catch you cowards the next time, next rhyme,
Yeah, I think about this every day. That's the American way.
That's the American way.
Yeah, I think about this American way.
That's the American way.
Yeah, I think about this every day.
What up, Kay?
That's the American way.
That's the American way.
Yeah, I think about this every day.
Yeah.
That's the American way. I don't care about the runaways. I don't care about who's gay. I don't care about dying of AIDS. But I care that I got paid. Who even cares about the president? I think we're making a mistake. I don't care about the hurricane. As long as my fear is safe, I don't care about the candidates. They build this country to bits. Yeah, I think about this every day. That's the American way. Can we make a change? You know it's not overnight. Let's step by.
Don't stop.
Can we make a change? You know it's not overnight. Let's step by. Yeah, I think about this every day. That's the American way.
Nas is a rebel to America.
Ouais, spécial dédicace moquette. Oui, c'était Nas.
Nas étant le nom.
Le nom du rappeur.
Non, pas. Non, pas c'était Nas, mais c'était pas Nas.
C'est N-A-S.
Nas.
N-A-S. Nas, Nas.
Nas, 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 Nas. C'était du rap.
Le auteur de Hip Hop is Dead.
Wouhou! Hey, vous êtes toujours à voix de fée sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Et comme on n'a rien à dire, on va faire une revue de presse. Non, en fait, c'est pas. C'était pas super winner, ça, comme façon
non.
De présenter ça.
Veux-tu qu'on recommence? Je vais te mettre la fin de la toune.
Vas-y, on recommence.
OK, attention. Ça s'en vient. OK, là, tu vas avoir 10 secondes pour te repréparer.
Rebonjour, vous écoutez toujours Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit sur les ondes de Sequoia 88.3. Il se passe beaucoup de choses dans les journaux ces temps-ci et on vous a préparé une revue de presse. En fait, on va parler de différents journaux alternatifs qui sont sortis et qui ne parlent pas de ce que les autres journaux parlent et qui parlent de ce que les autres journaux parlent pas.
Donc, c'est précis.
C'est précis.
Ça englobe tout.
Tout d'abord, il y a Cause commune, un journal anarchiste qui a commencé à distribuer à Québec aujourd'hui. Alors, le numéro 30 d'hiver 2011. En fait, ça, là, c'est la version papier Ben, c'est ça. C'est nous, en fait, qui l'édite avec des amis à Montréal et au Saguenay. Donc, vous pouvez le trouver dans plusieurs endroits à Québec et aussi sur Internet. Pour l'instant, il n'est pas encore là, mais ça devrait pas tarder à www.causecommune.net. Écoutez, c'est un petit tabloïde. Ce numéro-ci, la chose que j'ai trouvée intéressante, outre que ça parle de séquoias en page 2, puis là, ça présente notre point de vue sur la situation. C'est en fait la une sur la Tunisie. Alors, la révolution qui n'est pas finie et surtout un entretien avec deux militants tunisiens. Donc, ça, c'était intéressant. Et sinon, ben, ça revient sur plusieurs sujets qui tiennent à cœur aux anarchistes québécois. On revient sur les militaires. Sont-ils des héros? Il y a aussi... des trucs, différents trucs là sur le bourbier médiatique au Québec et tout. Je vous invite fortement à vous procurer une copie, puis notamment là parce que ça parle de Sequoia, tu sais, Sequoia qui respire mais qui est pas tiré de l'affaire. Et on revient sur le branle-bas de combat qu'il y a eu autour de la station, le fait qu'il n'y a pas de retour à la normale, qu'il faut encore se démerder pour réussir à financer cette station là et que donc dans le contexte, il serait intéressant de pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'on veut se réorganiser pour que ça aille mieux. Évidemment, on propose des idées dans le sens de l'autogestion.
Ça me fait penser, niveau financier, tu sais, les scientologues proposent des contrats sur 1 milliard d'années. On pourrait-tu rembourser la dette sur 1 milliard d'années?
Je suis pas sûr.
Ça serait pas pire.
Sinon, il y a aussi le couac, le numéro de février qui vient. On prend les mêmes puis on recommence. Non, c'est pas vrai, c'est parce que je vois en une qu'un article sur Éric Duhem et la liberté du huissier de Marc-André Cyr qui collabore aussi à l'occasion à Cause commune. Et en page 3, on se retrouve avec Éric Martin. Donc plusieurs personnes. Le couac, c'est toujours la même chose. C'est un mix d'anarchistes et de personnalités de gauche, peut-être un peu moins en or, mais ces temps-ci, c'est pas mal en or. Et on revient en fait en une, c'est plutôt rigolo. Le colloque sur le renouvellement de la social-démocratie. Cadavre et festival. Là, on a deux personnes qui sont assises dans un cercueil. Le premier barbu dit « On a besoin de renouveler la social-démocratie. » Le deuxième barbu de répondre « T'es malade, on doit rénover la démocratie sociale. » Et donc...
C'est fondamental.
On nous dit que c'est moins un colloque qu'au power d'une clique de technocrates syndicaux nostalgiques à laquelle on a pu assister. Évidemment, le couac, c'est toujours intéressant parce qu'il y a un mix d'articles sérieux puis d'analyses quand même vraiment... vraiment poussé, là. On parle des contradictions du néoconservatisme, des bonnies dans le secteur public, de la guerre, de féminisme aussi beaucoup. Ça, c'est plutôt rare dans les médias. Mais il y a aussi toute une série de brèves plutôt rigolotes. Par exemple, la Chine... Le bon exemple, la Chine dénonce l'inaction de la communauté internationale face à la fermeture des serveurs de WikiLeaks et propose d'héberger le site. C'est bon exemple, BIS. À cause de sa grande expérience dans le domaine, Barack Obama engage l'ex-PDG de BP, Tony Hayward, pour colmater les fuites de WikiLeaks. Le bon exemple, BIS. Maxime Bernier accuse Julian Assange de plagiat puisque l'ex-ministre a coulé des documents confidentiels bien avant WikiLeaks.
Ouais, mais un petit peu moins nombreux. Il est pas mal amateur.
La Grèce négocie un délai de remboursement de sa dette. Le ministre des Finances grec, Georges Papakonstantinou, propose de placer quelques voyelles en garantie chez un huissier chez un usurier du FMI. Nobel de la paix. Le comité innove et remet le prestigieux prix à une chaise vide fabriquée en Chine. La façon QMI. Après enquête, l'agence QMI a finalement retrouvé le fauteuil disparu du chef d'antenne Peter Mansbridge en fouillant dans l'arrière-train du lecteur de nouvelles de CBC. Le système PKP. Après que l'agence QMI ait nommé Pierre-Carl Pellado personnalité de l'année, les licheux à l'emploi de l'agence ont demandé une augmentation de salaire à leur patron.
Ah, oh, come on, l'agence QMI, c'est...
Charité corporative. La compagnie Huggies a annoncé un programme de distribution gratuite de couches aux bébés défavorisés qui sont dans leurs besoins. Charité médiatique. Plus de 213 000 $ ont été amassés à Montréal lors de la guignolée des médias, ce qui permettra de lutter un peu contre la pauvreté de contenu. Donc, c'est un journal à...
lutter à contre la pauvreté de contenu. Je pense qu'il y a un problème fondamental présentement dans les journalistes, mais au Québec, c'est ben, vraiment
le
des incultes.
Contre la pauvreté de contenu, c'est vraiment... En fait, bref, on peut le trouver dans pas mal tous les kiosques au Québec. Moi, je n'ai ramassé une copie à la station ici. Sinon, plus local... Il y a le Carillon du quartier Saint-Sauveur qui vient d'arriver tout frais, tout chaud. C'est un journal qui est publié justement là par le comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur et qui, depuis 5 ans maintenant, qui est distribué de porte à porte et qui, ma foi, s'améliore à la vitesse grand V, de numéro en numéro. Il y a vraiment, c'est de mieux en mieux. Et là, on propose notamment dans ce numéro-ci une réflexion sur la rue, espace social et politique à reconquérir. On propose aussi un article sur Sequoia qui est écrit par, tenez-vous bien, quelqu'un que vous connaissez peut-être, François G. Couillard. C'est... qui nous dit aussi que la guerre est déclarée à Jean Charest. Donc, je vous le dis, Lucie est partout, hein, dans le Couac, dans Cause commune, dans le Carillon.
C'est la synergie.
C'est la synergie. Mais sérieusement, le Carillon du quartier Saint-Sauveur, vous allez le recevoir dans votre boîte à main si vous vivez dans Saint-Sauveur dans les prochaines semaines. C'est un bon numéro, ça vaut la peine de le lire, ça vaut la peine d'en parler. Et finalement, il y a Droit de parole dans lequel... Dans ce numéro-ci, exceptionnellement, aucun membre de l'UCL n'a collaboré, mais qui propose quand même plusieurs textes.
Est-ce un étant membre de l'UCL Free?
Non. Non. Non, d'ailleurs, je ne devrais pas outer les camarades comme ça. Mais quand même, François, il collabore à l'émission de façon régulière.
Ah oui?
Oh oui. Et donc c'est ça, Droit de parole, qui fait sa une aussi avec Sequoia. Mon Dieu, Sequoia est choyé dans les médias alternatifs ces temps-ci. Donc, Droit de parole qu'on peut se procurer dans plusieurs endroits au centre-ville, dont la distribution est pas mal terminée, j'imagine, pour le numéro de février. Mais c'est ça, DDP aussi, qui lui aussi, quand même, il a trouvé une certaine stabilité depuis 1 ou 2 ans. Il paraît régulièrement, toujours le même nombre de pages. Puis plusieurs articles intéressants. Dans ce numéro-ci, entre autres, ça arrive pas souvent, toi, le groupe de défense des droits des détenus sort et dénonce la modification au système de pardon. Alors, c'est une menace à la réinsertion sociale. Je vous en dirai pas plus, vous lirez le journal. Donc voilà, c'est ce qu'on peut trouver dans les présentoirs, un peu partout. Écoutez, les médias, c'est vraiment de la boîte. Ces temps-ci. Et donc, la seule façon de s'en tirer, c'est de faire des médias alternatifs. C'est l'antidote.
C'est l'antidote.
C'est l'antidote. Et parlant de médias alternatifs, je ne vais pas vous le présenter parce que j'ai pas eu le temps de le regarder vraiment. Mais pendant qu'il y a des vidéos, qu'il y en a qui font des vidéos, il y en a d'autres qui font des journaux, et la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics vient de sortir la main rouge qu'on aura à Québec la semaine prochaine et qui sera distribuée, entre autres, demain à main, mercredi prochain, dans Saint-Roch. On va avoir une grosse diffusion massive là, autour de la bibliothèque Gabriel-Leroy sur l'heure du midi. Mercredi le 16 février et jeudi le 17 à Sainte-Foy. Alors, pour l'instant, on peut le trouver sur Internet, sur le site de la coalition, nonohaus.org. Mais c'est ça. Et puis, on annonce que Jean Charest est vendu. En fait, on ne sait pas si c'est Jean Charest qui est vendu ou les services publics qui sont vendus, mais je crois que c'était voulu.
C'est un peu des deux, je pense.
C'est un peu des deux. Alors, c'est ce qui va mettre fin à cette revue de presse déjantée.
Oui. Et doublement présenté.
Doublement présenté. C'est le fun, la radio.
Oui.
C'est la blague anarchiste de la semaine. Bis.
On finit ça?
Oui, on va finir ça. Alors, c'était Nicolas, en compagnie de...
Jani.
Et Farouko.
Vous écoutez Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Et, venez nous voir sur Internet. Voix de fait avec un xres.blogspot.com. Passez une agréable semaine. En l'air. Right, it's willing to kill for a privilege. My Lord, right.
just the noise of it.